affinités électives. Une émission proposée par Canal Académie.
Chers amis, bonjour, vous êtes bien à l'écoute de Canal Académie, merci de votre fidélité. L'actualité la plus récente, on le sait, était marquée par un certain retour du fanatisme, et en l'occurrence du fanatisme religieux. Or, si celui-ci est aisément condamnable, ce fanatisme charrie toutefois avec lui un certain nombre de questions plus fondamentales quant au statut de la croyance dans nos sociétés. Face à ce fanatisme, nous sommes donc obligés de ne pas nous en tenir à sa condamnation, mais à nous poser des questions beaucoup plus fondamentales, telles que « qu'est-ce que croire ?» ou encore « pourquoi croyons-nous ? » C'est cette dernière question que se sont posées dans un récent ouvrage Claude Debru et Frédéric-Pierre Izoz. Frédéric-Pierre Izoz est psychanalyste. Quant à Claude Debru, vous le connaissez, il est déjà venu de nombreuses fois sur notre antenne. Il est philosophe, professeur émérite de philosophie des sciences à l'École normale supérieure et bien sûr membre de l'Académie des sciences. Et il nous a fait l'amabilité de bien vouloir accepter notre invitation pour creuser cette question que nous aurions été bien en peine de creuser par nous-mêmes. Cette question ardue, d'ailleurs, même pour lui et pour Frédéric-Pierre Izoz, la preuve en est, ce livre ne présente pas une thèse définitive, il est constitué d'un dialogue fructueux entre les deux auteurs et constitue donc en quelque sorte un cheminement au fil duquel il nous emmène vers des questions et peut-être in fine des réponses non définitives, mais en tout cas un raisonnement sur ces questions à la fois d'actualité et parfaitement éternelle. Monsieur, merci encore d'avoir accepté notre invitation. Ma première question aura pour trait la genèse du livre. Je vais parler de l'éruption du fanatisme, mais peut-être y a-t-il d'autres ressorts à ce désir d'écrire un livre sur cette très vieille question. Pourquoi croyons-nous ?
Merci beaucoup pour votre invitation. Je suis très heureux, très honoré, bien entendu, de revenir ici. Je pense que c'est un lieu important. Et pour répondre à votre question sur la motivation de ce livre, finalement, elle tient dans deux choses. D'une part, effectivement, l'actualité extraordinairement forte du fanatisme, quels que soient ses aspects, ses motivations, etc., etc. Et puis la permanence de cette question fondamentale sur l'être humain qui est celle de la croyance, parce que c'est quand même une dimension fondamentale de l'être humain. Donc, philosophiquement parlant, puisque je suis d'abord philosophe, je ne peux pas me poser cette question-là. Et au fond, le fait que le fanatisme ait pris aujourd'hui une dimension importante dans notre société telle qu'elle est, c'est l'occasion de reposer cette question sur la croyance, qui est quand même une question, je dirais, qui est partout, qui pénètre tout, qui est omniprésente. Et c'est une question que la philosophie a abordée, et le cheminement de ce livre, c'est de montrer que, précisément, les philosophes, avec leurs désaccords, avec leurs méthodes de conceptualisation, etc., etc., n'ont pas réussi finalement à donner une réponse totalement claire à cette question. Et d'où, de ma part, en tant que philosophe, le souhait d'aller au-delà de la philosophie et d'utiliser d'autres méthodes. Et il m'a semblé, pour des raisons contingentes, pour des raisons de rencontres, etc., etc., que la psychanalyse, qui a quand même une dimension culturelle extrêmement forte, même si elle peut être discutée largement sur le plan de la pratique, parce qu'il n'y a pas que des réussites, hein, il y a aussi des grands échecs, la psychanalyse pouvait être fournir une voie d'entrée dans ce problème de la croyance. D'où ce choix d'une œuvre dialoguée. Et je dois vous dire que cette œuvre dialoguée me tient particulièrement à cœur. D'abord parce que c'est la première fois que je m'y livre, et ensuite parce que ça me paraît une bonne voie d'entrée dans ce genre de questions, plutôt que un développement purement, je dirais, universitaire, académique, etc., etc. Cette méthode de dialogue m'a paru extrêmement, comment dire, appropriée pour pénétrer ces questions par plusieurs voies d'entrée et pour essayer de les faire converger. Voilà, si vous voulez, l'intention, l'occasion, le contexte de cet ouvrage.
Très bien. Alors pour lever tout malentendu, l'ouvrage a pour objet le fait de croire. Le croire, comme vous dites, c'est un fait qui ne se limite pas aux faits religieux, même si c'est un terrain d'étude particulièrement propice. On est bien d'accord, le livre porte sur la croyance, quel que soit son objet ou ses modalités.
Oui, ce livre porte bien sur la croyance, quel que soit ses objets. Le fait est que la croyance pénètre totalement notre vie psychique. Les linguistes ont proposé une distinction qui est intéressante, qui ne va peut-être pas totalement au fond des choses, entre croire que et croire en. Je crois que cette émission est une bonne chose pour faire la publicité de cet ouvrage. Je crois que Frédéric Pierrizot était une personne tout à fait appropriée pour participer à ce travail. Et je crois dans la bienveillance ou la bienfaisance de tel ou tel de mes amis. Alors là, est-ce que croire que et croire en sont si distincts que ça ? J'ai l'impression que non, quelque part. J'ai l'impression qu'il y a une espèce de tissu fondamental dans la vie psychique qui est faite de croire en permanence. Et pourquoi ? Parce que la vie psychique, elle est en permanence orientée vers le futur. C'est une thèse que j'ai pas mal développée dans plusieurs ouvrages, par exemple avec Pierre Buzer, dans un ouvrage sur le temps, par exemple avec un ouvrage sur le sens du futur, par exemple avec des travaux avec Alain Berthaud sur l'anticipation. Donc, il y a là quelque chose d'assez fondamental dans notre mécanique cérébrale. Et avec cette mécanique cérébrale, qui est vraiment orientée vers le futur, croire apparaît comme une manifestation psychique de cette orientation, de cette projection. Croire, c'est croire que quelque chose va se produire. Voilà.
Parce que le futur est par nature insaisissable, et donc on ne peut pas dire « je sais » s'agissant du futur, mais forcément « je crois », mais qui comporte du coup une part d'une expression d'un doute, plus que d'une croyance au sens certitude.
Oui, alors, croire, douter, c'est terriblement enchevêtré. Et on le voit bien dans l'activité du scientifique. C'est Claude Bernard, physiologiste que tout le monde connaît, qui a dit la chose suivante, « Avoir une foi robuste et ne pas croire ». Dans la même phrase, il a dit à la fois le fait que le scientifique s'approche d'une réalité qu'il croit saisir et le fait qu'il doit en même temps douter en permanence de ce qu'il propose, de ce qu'il avance. Et c'est cette mécanique extrêmement subtile qui caractérise assez bien la démarche scientifique. Oui. Donc, croire et douter, c'est une sorte de dialectique assez, assez forte. Et cela repose la question de la relation entre croire et savoir.
Oui, ce que j'allais vous dire, c'est-à-dire que c'était la dialectique habituelle et vous souhaitez la dépasser.
Oui.
Expliquez-nous pourquoi.
Oui. Alors, croire et savoir. Croire serait de l'ordre de l'ignorance, et ça a été souvent souligné. On croit plutôt qu'on sait quand on ne sait pas. Et cette différence a été sans cesse reprise par la tradition philosophique. Et c'est là que je pense que la tradition philosophique a un petit peu loupé l'essence de la croyance. Parce qu'elle a sans cesse, comment dire, mesuré le croire à l'aune du savoir.
Oui, en quelque sorte, c'est comme si les deux domaines étaient réunis dans un, mettons un camembert, comme lorsqu'on fait des statistiques, oui. Et toute croissance du savoir devait forcément déboucher sur une réduction de la part de la croyance. Or, oui. C'est pas ce que l'on constate.
Non, c'est pas ce que l'on observe. Il y a une prolifération de la croyance qui est absolument manifeste dans nos sociétés contemporaines. Et ça pose la question de l'irrationalisme versus du rationalisme. C'est une vaste question qu'on peut aborder en quelques instants. Comment se fait-il que dans des sociétés tellement technicisées, tellement rationalisées, l'irrationnel ait une telle place ? C'est une question qu'on doit poser. Et je dois dire que la réponse, elle est dans quelque chose de tout à fait fondamental. Les croyances sont tellement fortes parce qu'elles ont une puissance de consolation que la raison n'a pas, tout simplement. Elles ont une puissance de consolation et cela rend le combat du rationalisme particulièrement difficile parce que le rationalisme, lui, il nous met face à une réalité qui est différente, qui n'est pas de nature à nous consoler ou ne pas nous consoler. Donc il y a là une dissymétrie qui est difficile à surmonter pour le rationalisme. Cela dit, je crois que le rationalisme est plus proche d'une sorte d'optimisme vital dans la capacité de l'homme de résoudre ses propres problèmes, alors que l'irrationalisme me paraît beaucoup plus sombre dans sa vision des choses.
Cela dit, dans l'ouvrage, si j'ai bien compris, vous ne réduisez pas la croyance à l'irrationnel.
Non.
Il n'y a pas identité entre les deux concepts. Ils peuvent se recouvrir, oui. Mais pas nécessairement.
Non, pas nécessairement. Mais cette histoire de rationnel et de l'irrationnel, je crois que c'est une dissymétrie, une dichotomie qui doit être un petit peu... où les choses doivent un petit peu se mélanger. Parce que, évidemment, comme on me l'a fait remarquer, il y a souvent, comment dire... des calculs rationnels dans l'établissement des croyances. Le pari de Pascal, par exemple.
Rien de plus rationnel.
Rien de plus rationnel. Et en même temps, c'est un étayage pour quelque chose qui est différent. Pour cette espèce de désespoir de l'homme qui est entre l'infiniment grand et l'infiniment petit et qui a l'impression qu'il ne peut connaître ni l'un ni l'autre, ni soi-même d'ailleurs. Je trouve que Pascal, dans ce livre, joue un rôle assez fondamental.
Oui. En même temps, le pari pascalien, c'est quand même pas ne donne pas un accès immédiat à une consolation. Une vision assez sombre.
Oui, toujours très sombre. Toujours très sombre.
C'est-à-dire, bon, même si l'on gagne, c'est dans un second temps. Il n'arrange pas.
Oui, ça n'arrange pas. Non, je trouve qu'il est assez désespéré. Je suis d'accord avec vous, dans le fond.
Donc, ça nous conduit à penser que la croyance ne tient pas seulement aux apports de consolation qu'elle charrierait avec elle. Elle doit bien avoir d'autres ressorts. Lesquels avez-vous identifiés ?
Alors, c'est là que l'intervention de la psychanalyse, au-delà de la philosophie, parce que la philosophie est nécessairement conceptuelle. Donc, elle a quelques difficultés à saisir tout ce qui est de l'ordre de l'émotif, de l'affectif et tout ce que vous voudrez de ce genre. Et c'est là que l'intervention du psychanalyste m'a paru intéressante. C'est la raison pour laquelle je l'ai fait intervenir, finalement. Qu'est-ce que nous dit... le psychanalyste, je ne dirais pas la psychanalyste, mais le psychanalyste dans cette affaire-là. Il nous ramène aux expériences les plus fondamentales de l'être humain, aux expériences les plus précoces de l'être humain. C'est-à-dire, au fond, au dénuement du petit enfant, qui certes est équipé, et les neurosciences nous ont appris à quel point, à la naissance, le petit enfant est équipé, neurologiquement parlant. Mais en même temps, il est confronté à un monde nouveau, ce qui crée des problèmes, parfois de la souffrance, etc. Et donc cet état de dépendance, finalement cet état de dépendance, est quelque chose d'intéressant pour explorer un petit peu plus le phénomène du croire, de la croyance. Parce qu'il est obligé de faire confiance à son univers, à son environnement, pour essayer de supprimer sa souffrance lorsqu'elle s'avère.
Et son inquiétude.
Oui. Et donc, il s'agit là quand même d'une forme de consolation. Je crois que ma mère va être en mesure de m'aider. Je fais confiance à... Je pense qu'il y a une affinité très forte entre croyance et confiance. La confiance est une croyance, mais une croyance fondamentale dans la relation à l'autre. Et bon, beaucoup d'auteurs maintenant mettent l'accent sur toute la dimension sociale, interpersonnelle de l'être humain. Énormément d'auteurs en font état. Je suis particulièrement intéressé par le travail d'un sociologue allemand qui s'appelle Niklas Luhmann, qui est une personnalité très intéressante parce qu'il a fait une carrière universitaire après avoir fait une carrière dans l'administration civile. Niklas Luhmann a écrit un livre sur la confiance dans lequel il montre, et c'est à mon sens très intéressant, que la confiance est un mécanisme de réduction de la complexité sociale. Or, la complexité sociale, elle ne fait que croître. Nous le voyons tous les jours. Ça devient impossible à gérer. Eh bien, un moyen de gérer cette complexité sociale, de la réduire autant que possible, parce qu'elle croît par ailleurs, et donc il faut la réduire de temps en temps, c'est d'établir des relations de confiance. Je crois. On ne peut pas échapper, vous le voyez, à l'expression « je crois ». Je crois donc que la confiance est quelque chose qui permet d'éclairer le phénomène de croyance. Je pense que ce sociologue allemand a saisi quelque chose d'assez fondamental.
Mais ça ressemble à une sorte de pari pascalien, mais sécularisé.
Mais c'est toujours un pari.
Parce que la confiance est un pari.
Ah, mais c'est toujours un pari, c'est clair. C'est clair. Mais il le dit, bien entendu. Voilà. Donc, confiance et croyance. Pour aller plus loin dans ce thème de la croyance, nous parlions de le caractère assez normatif de la philosophie qui établit des règles conceptuelles, de la psychanalyse qui elle aussi repose sur des règles de pratique. Ce caractère normatif de la philosophie et de la psychanalyse se rejoignent pour montrer au fond qu'il y a des règles dans cet établissement de la croyance. Il y a des règles qui font que, effectivement, le petit enfant établit avec son environnement proche des relations particulièrement fortes. Et ceci doit être compréhensible. Ceci doit être compréhensible et la psychanalyse nous aide à le comprendre, à mon sens, plus que la philosophie, qui, elle, est obsédée par la différence entre croire et savoir. Donc, si vous voulez, l'apport de la psychanalyse dans ce livre, c'est vraiment de montrer la force du lien qu'il y a dans le fait de croire, qui, comment dire, rend raison de la force, de la puissance extraordinaire de la croyance pour des individus. Et ça, je pense que c'est quelque chose d'assez fondamental dont on n'a peut-être pas encore suffisamment parlé. Voilà.
Une dimension, quasi existentiel, hein. Je me permets de citer le titre du premier chapitre, je crois donc je suis, c'est-à-dire que c'est plus je pense que, donc je suis, c'est je crois donc je suis. Ça devient donc ce qui distingue l'être humain, la croyance.
Oui. On pourrait dire beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses là-dessus. Nous avons commencé par le fanatisme, parce que finalement le fanatisme, il donne assurance à l'individu qui le porte, qui a ses propres faiblesses, sans doute. Le fanatisme, c'est une façon de se constituer, de s'affirmer, de s'insérer dans un groupe, etc., etc. Et là, ça rejoint quand même assez bien, d'assez près, les investigations, les remarques très virulentes de philosophes comme Nietzsche, qui a vraiment montré à quel point la croyance était une sorte d'assurance, de crampon, comme il dit, pour l'individu qui en est porteur. Mais je veux dire que ça va encore plus loin. Ça concerne pas seulement le fanatisme, qui en est en quelque sorte le grossissement pathologique. mais il y a une normalité là derrière, une normalité philosophique en quelque sorte. On vient de parler de Pascal, je pourrais parler de Descartes, dont Pascal était l'adversaire farouche. Ce qui est manifeste dans la métaphysique de Descartes, et ceci a été très bien analysé par Jean-Luc Marion, c'est que le sujet cartésien tient sa consistance, non pas de lui-même, parce qu'il est faible, il est fragile, il est aussi fragile que le sujet pascalien finalement, mais il tient sa consistance de l'infinité de Dieu. C'est Dieu qui donne au sujet cartésien, au sujet du « je pense », sa consistance. Parce que Dieu a une puissance infinie et que nous avons l'idée de l'infini que nous ne pouvons tenir que de lui. Voilà le raisonnement cartésien. C'est quand même quelque chose d'extraordinaire, cette idée, sur le plan spéculatif. Bon, saluons ces philosophes, aussi différents l'un que l'autre, et quelque part qui doivent pouvoir se retrouver.
Oui, toujours est-il que dans le propos introductif, vous nous expliquiez que la philosophie était finalement impuissante à résoudre cette question. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans une dialectique qui n'a pas de fin.
C'est une dialectique qui n'a pas de fin. Parmi les auteurs qui ont été cités, un certain nombre, il y a William James. Il y a Ludwig Wittgenstein, je ne suis pas un spécialiste de Wittgenstein, mais pour parler d'abord de Wittgenstein, je le répète, c'est pour moi un auteur assez loin de mes préoccupations, mais quand même, c'est un auteur qui a beaucoup réfléchi sur le langage, sur la signification du langage, sur l'usage du langage, etc. etc. Et finalement, s'interrogeant sur des expressions comme « je sais »,« je crois savoir »,« je sais que je crois », etc., en les triturant dans tous les sens, en essayant d'en extraire un noyau de certitude, eh bien, il est arrivé à la conclusion que finalement, la croyance était un phénomène naturel qui ne pouvait pas avoir d'autre explication que lui-même. Donc, il y a une espèce de limitation, d'auto-limitation, de la pensée philosophique dans cette affaire-là. Et ceci peut nous amener, je pense, à la perspective qui est celle de William James, que pour ma part, j'adore. Je trouve que c'est un penseur absolument éblouissant et toujours surprenant lorsqu'on le lit de près. William James, c'est quand même l'un des fondateurs de la psychologie moderne, dans ses principes de psychologie en 1890. C'est un de ceux qui ont rapproché la psychologie et le cerveau. Il ne faut pas l'oublier. C'est quand même quelque chose de considérable. Et en même temps, c'était un homme qui avait une prédisposition religieuse extrêmement forte. Et donc, dans son ouvrage « La volonté de croire », il a vraiment mis l'accent sur quelque chose qui, à mon sens, est aussi assez fondamental. C'est le fait que croire est quelque chose qui est fondamentalement lié à l'action. Quelque chose qui prédispose à l'action, qui est entrelacé avec l'action. Et ça, c'est une caractéristique assez largement répandue dans le pragmatisme américain, dans le pragmatisme de la Nouvelle-Angleterre de la deuxième partie du XIXe siècle. Ces gens-là, finalement, sont allés au-delà de la difficulté de percer le mur philosophique du croire. Ils sont allés au-delà parce qu'ils ont mis en lumière le lien entre croyance et action. Et c'est un lien tout à fait, à mon sens, assez fort. Je veux dire, croire incite à l'action. Bon, ça c'est banal comme remarque, mais il y a une intrication forte entre croire et agir, plus forte au niveau vraiment, précisément, du caractère d'anticipation du futur qui est entrelacé avec notre fonctionnement cérébral. Donc, croire et agir, et William James a écrit un livre tout à fait passionnant, assez difficile, qui s'intitule « La volonté de croire », où croire, vouloir et agir sont intimement mêlés. Alors, il dépassait de cette manière, et j'aime beaucoup cela, il dépassait de cette manière les impossibilités qui avaient été énoncées par, ou les difficultés qui avaient été énoncées par tel ou tel de ses prédécesseurs. Donc, la philosophie, lorsque elle sort un petit peu d'elle-même, ce qui est le cas chez William James, il va plus loin que les limites du langage qui ont tellement intrigué Wittgenstein. James est un penseur qui unit à la fois la psychologie, les neurosciences et, je veux dire, l'aspect religieux des choses. C'est rare.
Oui, parce que j'ai l'impression que là, on avance dans la croyance selon deux axes différents, un axe horizontal et un axe vertical. Alors vous me direz que c'est aussi contenu dans certaines explications du terme religion, où on est à la fois relié au ciel, mais qui unirait les gens entre eux. Mais est-ce qu'il ne faut pas, malgré tout, distinguer les différents aspects? Et en faisant le saut croyance vers confiance, est-ce qu'on parle réellement de la même chose? Vous voyez, je désunis ce que vous avez souhaité unir, mais c'est pour poursuivre la conversation.
Oui. Non, mais vous avez raison. Bien entendu, croyance et confiance. La confiance, elle repose sur une croyance. Bon, la croyance, c'est beaucoup, beaucoup plus large que la confiance, bien entendu. Mais de rechef, je pense que la confiance permet d'éclairer largement le phénomène de croire. Alors, le croire, on l'a dit, je le répète, il est très vraisemblablement pénétrant toute notre vie mentale. Alors, il y a une discussion à ce sujet qui peut être menée. C'est que, finalement, est-il vrai que le croire, c'est toute notre vie mentale ? Est-ce que le croire ne serait-il pas porteur de ce que j'ai appelé à la fin une couleur particulière par rapport à d'autres couleurs de la vie mentale, comme le savoir, par exemple, ou d'autres ? Sans doute. Mais je pense qu'on ne va pas assez loin lorsqu'on fait des distinctions. Et la tâche d'un philosophe n'est pas seulement de faire des distinctions, mais d'essayer d'aller plus loin dans le fondement des choses. C'est ce que nous avons essayé de faire dans ce livre avec Frédéric Périsot. Aller plus loin, ça veut dire peut-être effectivement lier le croire à quelque chose de plus fondamental que lui. Et peut-être la chose la plus fondamentale que lui que nous ayons trouvée, ce sont deux choses. C'est la marche, la mobilité de l'homme. Et c'est dans cette marche pleine de dangers, le soin, le fait de prendre soin. C'est ce qui a, au fond, occasionné l'intervention des travaux de Jean-Jacques Hublin, paléo-anthropologue très connu au Collège de France et à l'Institut Max Planck de Leipzig, qui s'appelle Jean-Jacques Hublin, donc, et qui a fait des découvertes de paléopathologie au Maroc, qui indiquait très clairement que la communauté humaine sait prendre soin de ses membres qui sont fragilisés, qui sont malades, etc. C'est une dimension qu'il faut introduire dans cette affaire de la croyance.
Oui, on sent très nettement qu'il y a une dimension aussi collective et que dans la croyance se joue cette tension, j'allais dire ce lien, mais c'est une tension entre l'individu et le groupe,
oui.
Mais qui nécessite aussi certainement une forme d'équilibre. Peut-être est-ce là un des aspects qu'il faut creuser en parlant du fanatisme. Mais c'est-à-dire que si la relation n'est pas équilibrée, l'individu disparaît, se dissout dans sa croyance. Et à l'inverse, il peut essayer de tenter de prendre le pas sur le collectif. Comment apaiser cette tension, cette relation entre individu, groupe et les éventuelles souffrances, puisque c'est un des termes qui revient souvent, notamment sous la plume de Frédéric Périsot, la souffrance est centrale.
Oui, la souffrance est centrale dans son propos. Elle est moins dans le mien.
Vous l'aurez remarqué.
Elle est moins dans le mien.
Il y a une vision assez tragique, en fait, de l'être humain. Mais peut-être oui. Le fait que c'est parce que c'est un thérapeute.
Oui. Elle est moins dans le mien. Pourquoi la souffrance s'introduit-elle? Et comment, effectivement, vous avez raison, réduire cette tension qui existe nécessairement entre l'individu et le groupe? C'est la vie humaine. C'est vraiment un aspect fondamental de la vie humaine. Que cette façon que nous avons de résoudre cette tension nécessaire à notre construction, en trouvant notre place dans le groupe, dans le collectif. Cette notion de place, elle est assez centrale dans les développements que consacre Frédéric Périsot à ce problème. De place, de désignation, et donc de relations à l'intérieur de la famille, qui vont orienter finalement toute une vie, et dont nous devons prendre progressivement conscience. Alors pourquoi qu'est-ce que ce phénomène a-t-il à voir avec le croire? De rechef, c'est un croire assez fondamental qui arrive ici. Nous ne sommes pleinement conscients ni de nous-mêmes, ni des autres. Nous le devenons petit à petit. Mais le fait que nous ne soyons pas pleinement conscients ni de nous-mêmes, ni des autres, largement reconnu, c'est quelque chose qui est aussi fondamental pour le croire. À mon sens, c'est assez difficile d'expliciter cette relation entre notre inconscience de l'autre et notre désir de croire envers lui. C'est ça, finalement. Nous ne le connaissons pas, et donc nous nous projetons vers lui avec confiance. Et là, je réintroduis volontairement le thème de la confiance, parce qu'il me paraît fondamental, parce qu'il me paraît caractéristique d'une approche positive de l'existence. Donc je réintroduis volontairement le terme de confiance dans ce contexte.
Oui, c'est-à-dire que ce que l'on perçoit au fur et à mesure du cheminement dans le livre, c'est qu'il y a une forme de générosité dans le fait de croire ou d'accorder sa confiance. D'un acte qui pouvait être une forme de repli dans une sorte d'imaginaire occidental contemporain, on découvre exactement l'inverse, c'est-à-dire un chemin vers les autres.
Ah ben absolument, absolument. Alors c'est là que je pense le dialogue peut se nouer entre un philosophe et un psychanalyste. Bon, nous avons suffisamment parlé de psychanalyste, il s'agit ici d'une perspective un peu différente, c'est la perspective plus générale du soin. Il ne s'agit pas d'introduire les dogmes de la psychanalyse, pas du tout. Il s'agit d'introduire la pratique du soignant. Et donc cette espèce de bienveillance qui anime la perspective du soin. Là, de rechef, croyance, confiance, bienveillance vont de pair. C'est tout ce que je pourrais dire pour l'instant dans ce contexte-là. Effectivement, nous avons avancé. Parce que personnellement, philosophe, ayant pratiqué largement telle ou telle science, ayant acquis une connaissance assez de l'intérieur de la méthode scientifique, et donc connaissant ces modes de progression, je suis plutôt du côté du concept. Mon interlocuteur, lui, il est totalement du côté du soin. Et comment ces deux démarches ont-elles finalement convergé? Bien entendu, on peut toujours parler des choses d'une manière plus ou moins conceptuelle. C'est finalement ce qui nous réunit dans cet ouvrage. On peut parler des choses d'une manière plus ou moins conceptuelle. On peut en parler, bien sûr. Mais qu'est-ce qu'au bout du compte nous avons approché en commun? Je pense que nous avons apporté en commun l'idée que la croyance s'enrichit, se comprend, peut se comprendre dans la force du lien. La force du lien. C'est ça qui, au fond, à mon sens, est un acquis de cet ouvrage. Bien entendu, beaucoup, beaucoup d'autres aspects des croyances peuvent être évoqués. Nous ne l'avons, dans notre démarche, nous ne l'avons pas fait finalement. Nous nous sommes concentrés sur ce résultat de convergence qui est la force du lien à partir de démarches qui sont quand même extrêmement différentes, de styles de pensée qui sont extrêmement différents. Et ça, on l'a dit depuis le début, et peu à peu, nous avons convergé.
Il y a peut-être quelque chose qu'il faut ajouter qui vient là très clairement de vous, c'est l'idée de normativité qui vous est très chère, parce qu'on l'avait déjà abordé dans une précédente émission, à propos de votre maître Canguilhem. Vous introduisez la normativité dans le processus de la croyance, c'est-à-dire qu'une part, je pense, des réticences contemporaines à l'égard de la croyance, c'est son caractère figé. Or, nous sommes dans une société qui aime le mouvement, le changement, et vous l'avez dit, qui se projette vers un avenir toujours... j'allais dire toujours plus lointain, non, enfin, qui conserve son caractère d'avenir, forcément. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la façon dont cette normativité vient modifier le sens de croyance dans son sens le plus figé?
Ah, bonne question. Oui, oui. Bon, la normativité, c'est quelque chose qui a été tout à fait essentiel. Et un des acquis de la pensée de Georges Canguilhem, sur lequel on n'a pas à revenir parce que c'est vraiment tout à fait essentiel. Et ce qu'il avait dans la tête avec cette idée de normativité, c'est que l'organisme, qui est tantôt normal, tantôt pathologique, et parfois essentiellement mêlé entre l'un et l'autre, eh bien, c'est que l'organisme est capable de modifier ses normes, de les élargir. Et de faire face à des situations pathologiques en se réorganisant lui-même. Bon. Alors ça, c'est l'idée de normativité, c'est-à-dire le pouvoir de créer de nouvelles normes. Et nos sociétés contemporaines, elles sont en permanence confrontées à ce défi de créer de nouvelles normes. Dieu sait qu'on crée des normes. On passe son temps à créer des normes. Ça devient d'ailleurs terriblement excessif et ça devient aussi une source d'inquiétude pour beaucoup de gens, y compris des politiques. Ou des philosophes, des gens qui réfléchissent, qui observent les phénomènes sociaux. Donc les normes, on en crée de plus en plus.
Puis on appelle souvent normes des règlements en réalité, hein ?
Oui. Aussi. Oui. Bah, ce sont des règlements qui ont une certaine force. Alors, pour revenir à la pensée de Canguilhem, la normativité, c'est donc le pouvoir qu'a l'organisme, comme un tout, de se réorganiser face à certaines situations. Qu'en est-il de cette relation, cette question que vous me posez, d'une éventuelle relation entre normes et croyances? Effectivement, on constate, dans notre société telle qu'elle est aujourd'hui, que les croyances sont finalement des aspects très normés de telle ou telle religion. Ce sont des catalogues de commandements. Ce sont des catalogues de commandements qui finalement s'éloignent beaucoup des préceptes les plus fondamentaux de telle ou telle religion, et en particulier du christianisme, qui consiste à nous dire « aimez-vous les uns les autres ». Et Dieu sait que c'est d'une grande actualité que cet « aimez-vous les uns les autres ». Et ça aussi, c'est une découverte commune entre le psychanalyste et moi, qui est un psychanalyste assez croyant. On l'a bien compris.
Oui. Il se réclame à la fois du père du désert et de Freud.
Voilà. C'est pas banal. C'est tout à fait ça. Eh bien, cette inflation de règles dans tel ou tel système de croyance et cette rigidité dans l'application des règles est quelque chose qui est compréhensible du fait qu'il y a cette force qui constitue le lien entre le sujet et ses croyances. il y a cette force. Et en même temps, la normativité, elle nous permet de la combattre, cette force. C'est quelque chose qui est de l'ordre de l'autorité. Dans ce livre, il est question de l'autorité bienveillante, bien entendu. L'autorité bienveillante doit pouvoir s'exercer face à telle ou telle rigidité des croyances.
Oui, c'est le point qui me semble intéressant dans la normativité et en l'espèce au sujet des croyances religieuses, c'est qu'on a un peu tendance, on a eu un peu tendance à penser qu'abandonner les dogmes ou les combattre, ça signifiait se retrouver dans une sorte d'univers extrêmement relativiste ou même nihiliste dans lequel, on connaît la phrase, hein, Dieu est mort, tout est permis. Pas du tout, la normativité, ça nous explique au contraire que les normes se transforment, qu'on les réutilise, qu'on les redispose, mais qu'il y a toujours des normes. Une sorte de nouvel accord social qui ne sort pas de nulle part, qui n'est pas créé ex nihilo, mais qui est de l'ordre de l'adaptation, quelque chose de quasi biologique.
Oui, c'est tout à fait de l'ordre de l'adaptation, c'est quasi biologique. Mais comme vous le mentionnez, c'est cette idée de normativité, elle va assez loin, parce que Nous sommes capables, effectivement, de créer de nouvelles normes et de tenter de les imposer par une autorité bienveillante. La bienveillance, c'est un thème qui ressort assez fréquemment dans cet ouvrage. La bienveillance, je voudrais quand même introduire du négatif dans cette affaire-là, parce qu'il y a du négatif, évidemment. Introduire la question des relations entre le positif et le négatif. Confiance et méfiance. Dans les affaires humaines, la confiance se gagne et se perd très rapidement. La méfiance tend à l'emporter.
Elle se perd plus facilement qu'elle se gagne, en tout cas.
La confiance se perd beaucoup plus facilement qu'elle ne se regagne. On le constate tous les jours. Et c'est véritablement une maladie de l'âme. Que cette cette inclination à être en permanence méfiant, c'est-à-dire à avoir la peur d'être trompé, comme on l'a dit fréquemment dans cet ouvrage, que des notables philosophes l'ont dit. Donc, revenons à cette histoire du négatif et du positif. Je crois que le positif est antérieur au négatif et qu'il est plus fort que le négatif. Le négatif, dans l'existence humaine telle que nous la vivons, c'est du positif inhibé, pour des raisons qui tiennent à la complexité sociale, à l'histoire, etc., à tout ce que vous voudrez. Mais le négatif, à mon sens, c'est du positif inhibé. C'est quelque chose qui est empêché de s'exprimer. Voilà. Ça, je pense qu'il vaut la peine de le dire.
C'est certainement quelque chose qu'il faut creuser, car vous n'êtes pas sans savoir qu'un certain nombre d'économistes et de sociologues ont caractérisé la société française aujourd'hui comme une société, et on le constate, là aussi c'est dans l'actualité, comme une société de la défiance. Défiance à la fois sur un axe vertical, on voit qu'il y a une défiance entre les élites et le peuple, pour faire simple, utiliser des... Voilà, c'est un peu réducteur, mais ça dit bien ce que chacun ressent, mais aussi horizontal, entre les gens, situés au même niveau de la société. Une sorte de défiance généralisée qui nous rongerait. Cela signifie-t-il que la croyance serait le remède à cette défiance ?
Est-ce que la croyance serait le remède à cette défiance ? Bonne question. Oui. Que dire ? La croyance serait-elle le remède à cette défiance ? D'abord, cette défiance, on doit le déplorer, générale, et c'est de l'ordre d'une maladie. Un de mes collègues, Pierre Carly, pour ne pas le nommer, qui était d'ailleurs neurophysiologiste, membre de l'Académie des sciences, a écrit de nombreux ouvrages sur la violence, et il me disait fréquemment, notre pays, c'était déjà il y a 20 ans, notre pays est profondément malade. Notre pays est profondément malade. Alors, bon, une maladie, il y a quand même des thérapeutiques, tout de même. Elles existent. Elles sont parfois dures. Oui. Mais je crois que nous pouvons faire confiance dans des mesures de l'ordre de la thérapeutique pour combattre cette défiance généralisée qui s'est installée comme ça. Bon, on pourrait en commenter les causes nombreuses, mais ce n'est pas la croyance en tant que telle, c'est le fait de croire que quelque chose est possible. Croire que quelque chose est possible, c'est ça l'essence du rationalisme. Et c'est aussi quelque chose que la biologie nous apporte. Le jeu des possibles, dont parlait François Jacob, qui est quand même un des sommets de la philosophie biologique en France, le jeu des possibles. Croire que quelque chose est possible. Voilà, ça serait ma réponse à votre question.
Mais écoutez, je pense que ça fait une excellente conclusion, à la fois à titre individuel et à titre collectif. On ne soulignera jamais assez que probablement une des causes de cette défiance, c'est le manque d'horizon commun, mais peut-être aussi le sentiment dans la violence de certains que leur propre vie est bouchée. Alors, qui sait, je ne suis pas thérapeute social, vous non plus, voilà. Mais il y a certainement quelque chose à creuser dans ce beau terme de confiance contenue, comme vous le dites, dans celui de croyance, et croire en soi et en nous est peut-être une des voies, une des plus belles façons de croire. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça?
Parce que je suis totalement d'accord, et merci beaucoup de m'avoir interviewé.
Merci à vous, monsieur. Je rappelle les références de l'ouvrage « Pourquoi croyons-nous ?» par Claude Debru et Frédéric-Pierre Izoz chez Odile Jacob. Merci encore. Thank you.